Radio Okapi. Jeune.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine des jeunes pour les jeunes avec les jeunes de Radio Okapi. Nous restons dans notre thème sur l'entrepreneuriat et initiative des jeunes. Deux jeunes vont nous faire découvrir aujourd'hui une start-up qu'ils ont montée et qui a pour mission d'identifier des problèmes sociaux en vue de les résoudre à travers des solutions numériques. 100% jeunes, c'est parti! Vous êtes bel et bien dans 100% jeunes et nous recevons deux jeunes aujourd'hui. Ils sont fondateurs d'une start-up spécialisée dans la conception des logiciels, baptisée Kembo Corporation. Il s'appelle Nicolas Bayona. Bonjour.
Bonjour.
Et à côté de vous, Nicolas, il y a Alexandre Moulumba. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes cofondateur. Qui est le boss entre vous deux? Qui fait quoi, je veux dire?
Moi, je suis plus dans la partie administrative.
Nicolas, oui.
Et Alex, il est plus dans la partie créative, dans la partie technique et scientifique.
Quand vous dites partie administrative, Nicolas, ça veut dire quoi?
Je gère la boîte. Je parle au nom de la boîte, je signe au nom de la boîte. Je me représente au nom de la boîte.
Et ça fait combien de temps que la boîte existe?
8 mois.
8 mois. Pourquoi vous avez créé cette boîte?
Pour apporter une solution numérique à chaque problème des Congolais. Moi, personnellement, je dirais que c'est mon expérience par rapport à mes études en Tunisie. J'ai remarqué qu'en Tunisie, la plupart des choses étaient numérisées, comme les achats en ligne, les livraisons à domicile. Sauf que nous, on est assez avancés, mais jusque-là, on n'a pas trop de solutions qui permettent de donner des solutions au quotidien, que ce soit les petites demandes aux grandes demandes.
Donc, des solutions qui facilitent la vie aux gens, mais grâce à la technologie, grâce au numérique, grâce au digital.
Ce qui permet de moins se déplacer, en tout cas.
Vous revenez à Kinshasa et vous décidez de monter la boîte comme ça du jour au lendemain. Et c'est quoi le process, en fait?
C'est pas du jour au lendemain. Déjà, j'ai eu à monter quelques startups au niveau de la Tunisie, notamment dans la santé et autres. Mais en revenant, je me suis dit, pourquoi pas trouver des personnes comme Alex, qui ont ce savoir-là en technique, parce que moi, je suis plus dans le management, en tout cas, pour le parler, et essayer de donner des solutions. C'est dans cette optique.
Vous vous connaissez comment?
Grâce à des amis en France, en tout cas.
Ah, vous êtes amis depuis tout petit?
On a des amis en commun depuis tout petit, mais on se connaît, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc on échangeait déjà au niveau, moi quand j'étais encore en Tunisie, et ici, on échangeait déjà.
Si,
on est aussi associé avec ces amis-là.
Ok, donc vous n'êtes pas les seuls en fait.
Non, on n'est pas les seuls.
Ah, ok, je pensais que vous étiez les seuls boss, donc vous avez d'autres boss à côté de vous. Alors, cette boîte est à quel statut juridique aujourd'hui?
C'est une SAS.
Oui. Vous l'avez montée donc à Kinshasa, vous êtes tous actionnaires. Combien de personnes, combien de membres?
En un nombre de 5.
5.
En nombre de 5, ça vous a pris
4 à Kinshasa et 1 en Hollande.
Ah, en Hollande. Et comment il a fait lui pour signer les statuts?
Bon, il a été séduit.
Non, pour signer les statuts, jusque-là, on n'a pas encore. On a, comment je veux dire, un protocole d'accord jusque-là, qu'il a signé à distance, mais sur terrain, il doit se présenter d'ici le mois de mai.
Ah, il a verrouillé quand même le projet de loin, individuellement. Avec qui? Avec l'entreprise ou avec un d'entre vous?
Avec l'entreprise.
Avec l'entreprise, et dès qu'il viendra, vous allez lui faciliter l'entrée dans l'entreprise pour avoir des parts d'action.
Voilà.
Voilà. Et quelle est la démarche que vous avez faite pour monter cette entreprise?
Oui, on a été voir les avocats, on a présenté nos idées et ils nous ont proposé des...
C'est des proches, les avocats, je suppose?
Oui, c'est des proches. C'est des proches.
Ils vous ont donné des conseils pour
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ma première start-up. En rentrant, j'ai commencé par une start-up qui, malheureusement, n'a pas tellement donné. Alors, j'ai connu ces avocats à travers la création de cette start-up parce que j'avais déjà un ami avec qui on travaillait qui connaissait ces avocats. Alors, une fois qu'on a traité avec eux et que la start-up n'a pas tenu, quand j'ai monté l'autre Kembo, j'ai fait recours à ces mêmes avocats. En tout cas.
Donc, vous êtes allé au guichet unique des entreprises ici pour introduire les documents et finalement légaliser cette entreprise.
Oui, qui n'était pas facile parce que c'était la période du confinement en tout cas.
J'en connais beaucoup qui ont fait la même chose pendant la fin du confinement et certains qui n'ont même pas fini. Hein.
Dieu merci pour la vie.
Et donc, au bout de 8 mois, vous avez eu vos documents et maintenant vous êtes opérationnel. Où se trouve votre siège?
Il se trouve à Mimosa, plus précisément à Villangalema, plus précisément à Mimosa, l'avenue Docteur Diamouna, numéro 35A.
Donc si on veut venir vous visiter, c'est là qu'on vous voit officiellement, vous êtes installé. Mais comment vous fonctionnez? Vous vendez déjà des services, des prestations? Vous générez du chiffre derrière ou pas?
Jusque-là, on fonctionne à titre personnel, de notre poche. On ne génère pas encore.
Parce comme qu'on essaie, toute start-up. Quoi.
Voilà, on essaie encore de se connaître du grand public et de donner une visibilité à ce qu'on fait pour que les gens nous approchent. Mais jusque-là, on fonctionne avec nos propres moyens. La mission de la start-up, c'est de répertorier les problèmes sociaux et d'apporter des solutions numériques. De faciliter cette vie-là aux Congolais. De pouvoir, parce que vous savez, aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est plus dans les mines, c'est plus dans le gouvernement. La nouvelle génération, c'est dans le numérique. Je peux donner un exemple. Si vous prenez aujourd'hui aux États-Unis, c'est les startups, c'est la Silicon Valley qui gère pratiquement les États-Unis, qui ressources.
Comment ça?
Ben parce qu'ils donnent plus de ressources au niveau financier que plusieurs autres secteurs. Vous avez Facebook, vous avez Apple. Déjà, l'homme le plus riche, c'est le propriétaire d'Amazon. C'est qu'il y a un projet numérique.
Il n'a pas été détourné par Elon Musk
de quelques semaines. De quelques jours. De quelques jours. Mais même la personne qui l'a détourné, c'est toujours dans la nouvelle technologie aussi. Tout est basé dans le numérique. En tout cas, le monde aujourd'hui, avec l'actuel Covid, je crois que sans le numérique, on est perdu quelque part.
Mais quand vous voulez faciliter, vous dites que vous voulez faciliter la vie, trouver des solutions aux problèmes sociaux à travers le numérique. Mais vous proposez quoi comme service ou produit de manière concrète pour aider la population à apporter des solutions?
Pour l'instant, je crois qu'on a déjà ICEL.
Oui, on a un TK logiciel aussi.
On a aussi TK logiciel.
Donc vous avez déjà deux logiciels disponibles. Expliquez-nous TK logiciel et
ICEL.
ICELS, de quoi il s'agit?
Bon, TK logiciel, déjà, c'est un site.
Alors, on a Alexandre qui explique, qui s'occupe de la partie technique.
C'est un site social qui permet, en fait, de concentrer une société et une communauté des développeurs. Déjà, dans notre pays, nous sommes habités à un problème. Déjà, on ne sait pas où se fier quand on a, par exemple, un problème numérique. Voilà. Donc, et il y a aussi, nous, côté conception, on a un problème. Lorsqu'on conçoit notre logiciel, on fait porte à porte. Mais avec TK logiciel, ça nous permet d'avoir une sorte d'espace qui va nous permettre de publier notre œuvre conceptuelle et faciliter aussi aux clients qui auront besoin de ces produits d'en avoir facilement.
Mais je suis développeur, je comprends plus ou moins ce que vous proposez. Je suis développeur, je suis sur Facebook, je fais des petits trucs et il y a des gens qui ont besoin de mes services. Est-ce que vous pensez pas que déjà rien qu'avec Facebook, j'ai plus de chances d'avoir des clients? Nous, en tant que client, je peux trouver facilement un développeur, contrairement à la solution que vous apportez. Je veux dire, quelle différence faites-vous avec votre plateforme? Quel avantage ça apporte?
Oui, l'avantage, c'est que déjà, on est en train de dissocier des choses. Déjà, Facebook, c'est un site social pour la communication, bien sûr. Mais quand vous avez d'ici, par exemple, vous publiez, par exemple, vos services au niveau de Facebook, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Ceux qui sont plus au courant, ce sont vos amis, à moins que vous puissiez booster. Mais pourquoi pas créer une communauté, un site web qui va régorger en fait tous les informaticiens dans un seul endroit, comme par exemple un site de freelancer. Donc c'est un peu ça. Donc là, une personne, il sait bien que oui, il a un compte Facebook, mais quand il a besoin des services numériques, il va directement vers TK logiciel. Il sait que non, là, je trouverai une solution numérique facilement. Au lieu d'aller sur Facebook chercher, vous voyez. Mais de l'autre côté, vous avez une facilité de chercher et de trouver directement.
Donc avec TK logiciel, c'est l'espèce de marketplace. Vous mettez en relation les développeurs, les concepteurs et les clients, les particuliers, les entreprises qui ont besoin de bénéficier de leurs services. Comment vous gagnez avec ça?
Bon, logiquement, maintenant là, on n'a pas encore commencé à gagner parce que on vient de commencer. On serait en partenariat avec des développeurs déjà pour éviter qu'il y ait des problèmes. On ne veut pas que un développeur qui, par exemple, un client qui contacte un développeur et après, il découvre des problèmes. Mais si ce développeur est en contact avec nous, on sera déjà à mesure d'auditer son logiciel. Savoir réellement si le logiciel est fiable ou pas. Et après la demande du client, nous, on ne pourra que gagner quelques pourcentages, quelques miettes, parce que déjà, on gagne en fiabilité. S'il y a un problème, on saura s'interposer sur ces problèmes-là.
Vous êtes développeur, alors?
Oui, moi, je suis développeur.
Quelle catégorie? Full stack ou
Bon, vous voyez, logiquement, il n'y a pas de full stack. Mais, bon,
ah bon?
Oui, logiquement, parce qu'il y a ceux qui sont dans le back-end, ceux qui sont dans le front-end. Mais
c'est des développeurs.
Oui, ce sont des développeurs. Déjà, c'est parce que la demande vient toujours full stack, mais logiquement, un full stack, on peut que faire ce travail pour... mais logiquement, ça marche pas comme ça.
C'est devenu de la frime, en fait.
Oui, mais d'abord, oui, quand une personne s'est dit, je suis full stack, et qu'on voit, par exemple, ce qu'il a fait dans le front-end, ben, on peut que...
C'est pas toujours de bonne qualité.
De bonne qualité.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, Droit et Citoyenneté mardi, Parité et Famille mercredi, Écho du Développement jeudi, 100% Jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines Étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de suivre le magazine 100% Jeunes sur Radio Okapi. Nous sommes dans ce studio en compagnie de Nicolas Bayona et de Alexandre Moulumba de la start-up Kemo Corporation. Une start-up qui a pour mission d'identifier des problèmes sociaux en vue de les résoudre à travers des solutions numériques. Nicolas, dans une plateforme comme celle-là, est-ce que vous vous baserez uniquement sur un business model basé sur la commission ou vous avez des perspectives d'avenir que vous entrevoyez pour rentabiliser avec un tel projet, un tel produit?
À part la commission, il y aura aussi le côté marketing digital, parce qu'on met en avant le travail de tous ces développeurs qui ne savent pas où se commercialiser. Donc, si vous me posez la question, à part la commission, je dirais que on sera dans le marketing digital, en tout cas.
Le marketing digital intégré dans la plateforme.
Voilà,
même.
Tout justement. Parce que si je reviens à ce que vous avez dit, Facebook, c'est d'une manière générale. Or que nous, on a visé une communauté en particulier, des développeurs et des chercheurs de logiciels.
Donc là, on parle que des produits à partir d'un logiciel. Vous avez donc eSales, comme vous veniez de le dire.
Oui.
C'est quoi eSales? Et bon. Ça veut dire quoi eSales?
Bon, déjà, c'est la vente en ligne.
Vente donc, numérique. Donc, e comme électronique.
Électronique.
Et eSales comme vente en anglais.
En anglais.
Ok.
Voilà, déjà, ça, c'est un logiciel de gestion de stock. Voilà, ça permet, par exemple, avoir une vue globale sur le vente et surtout sur le stock. Et vous voyez, eSales facilite déjà la tâche premièrement, sur la vente journalière, un rapport journalier. On peut savoir déjà que non, aujourd'hui on a vendu tel montant. Et il y a aussi un rapport mensuel pour savoir le cumul mensuel, savoir ce qu'on a vendu le mois, et annuel, et il y a aussi le cumul général. Voilà, à part ça, il y a aussi par exemple, il y a la courbe des gains. Il y a aussi la courbe de perte. Lorsqu'on parle de la courbe de perte, il y a par exemple des produits qui peuvent expirer, il y a pas d'autres produits qui peuvent être détruits. C'est facile de référencer ça dans le logiciel.
Le logiciel, voilà, il y a aussi déclasse automatiquement les produits périmés.
Et pour les stocks, produits, okay. Voilà, pour les produits périmés, il y a aussi un temps à laquelle le logiciel va déjà vous dire que non, dans un mois ou bien une semaine, tel
faites
produit,
attention, tel produit
va être périmé. Et si vous ne faites pas attention, le logiciel va déclasser automatiquement ces produits-là et vous pouvez perdre le ventre. Et il y aura...
Comment ça?
Oui, déjà.
Le logiciel sort et
oui.
Prend le produit et
oui.
Met,
en fait,
pas de cette manière-là, mais
manière,
le client peut... Parce que prend à l'alimentation,
oui,
quand vous prenez un produit, vous venez à la caisse pour payer, on est obligé de scanner. Donc automatiquement, quand le logiciel déclasse le produit,
il est plus répertorié. Donc on scanne, ça zappe, on n'arrive plus à identifier.
Il n'existe plus au fait pour le logiciel.
Et ça permet donc au propriétaire du magasin de tenir compte du fait que ça a été déclassé et qu'il faut essayer de revoir le stock.
Mais
c'est génial ça.
Le logiciel vous le provient bien avant d'avoir ce problème-là.
Et ça, c'est le dernier recours au cas où vraiment vous avez oublié,
les logiciels des classes, vous ne pouvez plus vendre ces produits-là.
Parce qu'il y a beaucoup de produits que les Congolais consomment qui sont périmés.
Mmh.
Or, s'il y a un logiciel qui déclasse déjà à l'avance, je crois qu'on épargne certaines personnes.
Oui, absolument. En gros, quelle est la valeur ajoutée de votre logiciel e-sales? On suppose qu'il y en a plein sur le marché.
Bien sûr. La valeur ajoutée, déjà, c'est un logiciel dans lequel on peut déjà avoir une vue globale, et surtout sur le produit. On peut savoir quels sont les produits qui sont beaucoup plus vendus, et on va se concentrer sur ce produit dans un secteur, en fait. C'est un produit dans lequel on peut dissocier. Vous avez e-sales, mais ça fonctionne à Massina ou bien à Matete, je ne sais pas où. Et vous avez une vie globale. Savoir déjà que non, par exemple, dans tel secteur, nous vendons plus tel produit. Vous voyez un peu. Donc, ce qui va permettre à ce que nous puissions être concentrés sur le produit qui se liquide facilement, qui est des produits qui sont lourds, en fait. Voilà, c'est en fait ça.
Non, mais c'est intéressant, ça. Et comment on fait pour l'avoir et comment vous gagnez de l'argent derrière?
Bon, logiquement, on ne peut pas parler du prix, alors. Déjà, on gagne de l'argent, c'est suivant comment est-ce que les entreprises nous sollicitent, en fait. Donc, déjà, ça commence par un cahier des charges, parce que c'est un logiciel qui s'adapte, c'est pas statique. On peut arriver et se solutionner, par exemple, présenter nos solutions, et puis écouter aussi les clients, parce qu'il y a aussi des clients qui peuvent dire, non, moi, j'aimerais pas que ça soit comme ça, et j'aimerais que ça soit comme ça. Vous voyez que ça joue aussi sur le prix. Donc, c'est un peu ça, c'est un logiciel adaptable.
Mais si on doit avoir un prix, par exemple, moi qui ai un salon de coiffure et qui ai besoin... Est-ce que c'est adapté aussi pour le salon de coiffure?
Oui, salon de coiffure...
Pas que l'alimentaire.
Là où il y a la vente, le stock, il est adapté.
D'accord. Très bien. Et comment on fait justement pour avoir une start-up et développer autant de solutions parce qu'au-delà de ces deux produits, vous avez même des services que vous avez développés au sein de votre entreprise dont on n'a pas parlé.
Oui. Et plusieurs.
La formation, et surtout la formation.
La formation, il y a la création des applications desktop, applications mobiles, nous sommes aussi dans le réseau, et la maintenance.
Et comment on fait pour gérer tout ça quand on n'a pas de financement? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et comment vous faites pour les contourner?
On va peut-être arracher
la parole à Alexandre et lui donner à Nicolas, qui est le gestionnaire.
Je dirais, notre plus grande difficulté, c'est le finance. Et de trouver des gens qui croient en ce qu'on fait. Parce que la plupart des gens, en entendant parler de ce qu'on fait, ils croient que c'est un rêve.
Rêve dans le sens de quelque chose de beau et de grand?
Non.
Les deux à la fois.
Au fait, moi, je me dis... Quand je parle de ce que je fais à une personne, ce qu'on fait, ce que Kemo fait à elle, quand je parle de ça à une personne, il y a deux cas. Soit la personne ne comprend pas du tout la vision, et il est limité quelque part, pour lui, il dit que c'est impossible, et il me dit, mais ça ne marche pas. Ici au Congo, ça ne marche pas.
Ça n'a rien à voir avec la réalité locale, quoi.
Voilà.
Tout justement.
Moi, j'ai des amis comme ça aux États-Unis qui m'ont dit, mais attends, tu crois devenir millionnaire avec ça au Congo? Mais je l'ai donné deux, trois mouvements, ce que je pouvais faire, accomplir si j'avais, déjà, c'est que j'accomplis. Avec le peu qu'on a, et si on avait les moyens qu'il faut, ce qu'on pouvait accomplir. Et qui est le premier à me dire, je t'envoie mon CV. Vous voyez un peu. Donc, les difficultés sont déjà que les gens croient en ce qu'on fait. Parce que pour eux, au niveau du pays, ça marche pas. Il faut à l'étranger. Mais avoir la croissance des gens connectés aujourd'hui au Congo, mais c'est énorme. On est parmi les pays où le numérique y prime.
Mais vous dites parmi les difficultés, c'est quoi? D'avoir des gens qui croient en vous. Donc, c'est-à-dire que les gens ne croient, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en vous. Et puis, c'est les finances. Est-ce que vous croyez que croire en vous va changer quelque chose?
Non, pas croire en nous, croire en ce qu'on fait.
Croire en ce que vous faites, j'englobe en quelque sorte.
Mais oui, parce que vous ne pouvez que vous intéresser, miser dans quelque chose en quoi vous croyez. Quand vous ne voyez pas le potentiel de quelque chose, vous ne misez pas.
Donc en gros, miser à ce moment-là, c'est quoi? Devenir client ou carrément investir?
Les deux, parce que en tant que client, avant d'acheter, je dois croire en ce que vous faites. Croire qu'une fois installé chez moi, ça fonctionne. C'est là que je viens acheter. Et en tant qu'actionnaire ou financier, c'est pareil. Il faut croire en la chose et vous serez plus ouvert. C'est différent avec une personne que je vais voir, expliquer, solliciter. Bon, vous pouvez me donner du cash, mais c'est pas pareil. Quand vous comprenez la vision de la chose et vous adhérez à la vision de la chose, c'est totalement différent.
Et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour contourner tout ça? Comment est-ce que vous vous débrouillez pour contourner tout ça?
Ben, déjà, on est là. à parler avec une seule entreprise.
Donc vous communiquez.
Voilà, on communique pour faire, comment je vais dire, faire comprendre aux gens que c'est pas du rêve, c'est quelque chose de palpable.
Vous faites aussi des démos?
Oui, bien sûr.
Mais j'en ai pas vu, moi.
Vous avez pas demandé.
Oh, mais il fallait vous montrer.
On y croit. On y croit lourd comme fer. On se dit, si les autres ont pu le faire, on peut le faire. C'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens, mais je crois que la foi qu'on a en nous et ce qu'on donne, au fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer, parce qu'on rencontre vraiment beaucoup de difficultés, normalement, mais avec le peu de moyens qu'on a, on essaie un peu de s'adapter, au fait. Parce qu'à part ça, on a aussi ce côté-là quinois, qui, comme on peut le dire, article quelqu'un débrouillard. Donc on se débrouille, on essaie d'adapter. C'est pas toujours parfait, mais on essaie de faire de notre mieux. En tout cas, c'est le peu que je pourrais dire par rapport à ça.
Une journée typique, par exemple, de la gestion d'une start-up, c'est comment?
Une journée typique?
Oui. Vous êtes arrivé le matin, vous ouvrez l'après-midi, vous travaillez de nuit. Comment ça se passe?
Bon,
comme là, par exemple, vous êtes ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fermé la boîte?
Non.
Non, il y a des gens qui travaillent. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent.
Ils font quoi, généralement?
Là, on est plus dans la communication. Donc, ils sont en train de travailler sur comment communiquer. Parce qu'on a 8 mois d'existence, mais on n'a pas commencé nos activités directement 8 mois. On a plus pris le temps de construire, de créer ces logiciels. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on ne demande pas qu'on ait rien à donner. Alors, on s'est plus concentré sur créer les logiciels pendant ce temps. Et là, maintenant, on est en train de les commercialiser, de les voir au grand public, au fait. Donc, les gens actuellement, ceux qui sont actuellement au bureau, ils sont en train de développer. Parce que, comme on l'a dit, on a d'autres logiciels en cours de réalisation. Ils continuent de développer sur ce point-là. La communication et le marketing font aussi son travail. Et nous aussi, on est là pour parler de ça.
Bon, logiquement, maintenant là, avec cette pandémie, on travaille en télécommunication, on n'est pas sur
place. En télétravail.
Oui, en télétravail, on n'est pas sur place. Voilà, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça l'avantage aussi. Oui. En même temps, ça vous réduit
des dépenses.
Voilà, tout justement.
Etc. Et si jamais des gens sont intéressés de vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, pour solliciter votre solution logicielle?
Déjà, on a un site web. On a un site web.
Non, c'est à vous de voir. Hein.
Oui. Oui. Oui, on a un site web.
Le CEO, il n'est pas dictateur, il laisse faire.
Oui,
<bien. rire>
oui, on a un site web, Kembo Corporation, www.kembocorporation.com. Et à partir de là, vous pouvez facilement nous avoir.
Voilà. Mais si on a un contact, numéro de téléphone, Nicolas.
Vous pouvez toutefois nous rejoindre 097-71-50-270.
Et les réseaux sociaux, vous y êtes aussi?
Oui, oui, on est sur presque toutes les plateformes. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram.
Toujours Kembo Corporation.
Voilà. Kembo Corporation.
En tout cas, très intéressant tout ça. Bon, on vous souhaite bonne chance.
Merci.
N'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez de l'actualité. 100% jeunes est destiné aux jeunes. On aime bien voir les jeunes avec des initiatives et les encourager. On est là à votre disposition, c'est comme vous voulez.
Merci
beaucoup. Merci en tout cas.
Ainsi prend fin ce 100% jeune supervisé par Thérèse Kankou et Polydor Basunga à la prise de sang. Je suis Bayat Chamala. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même heure, même radio. Ciao.